un transfert d'énergie de type mécanique, hein, de mon système vers l'extérieur. D'un point de vue du système, il va perdre en énergie interne à cause de cette perte de travail. Alors après, ça se comprend, d'accord? Pourquoi il va perdre en énergie interne? Si j'augmente le volume, admettons c'est un gaz parfait, si j'augmente le volume en gardant la pression constante, je vais avoir... qu'est-ce que je veux dire? Je vais avoir davantage de place entre mes différentes particules. Donc, ça serait une raison d'expliquer que les interactions entre les particules, elles diminuent. Voilà, par exemple. On verra ce que ça donne réellement quand on va essayer de prendre des valeurs. Je vous ai gardé un vrai exemple d'entraînement pour la fin de séance, donc normalement, on va y voir un peu plus clair. Mais vous voyez, tout est lié finalement à la courbe qui est dessinée sur l'écran. Selon le cas de figure, c'est-à-dire d'où je pars, où je vais, quelle est ma borne inférieure, quelle est ma borne supérieure et quel est le sens entre les deux, je peux prédire le signe de mon intégrale et donc le signe de mon travail. C'est dur ça, c'est dur. Mais ça va venir, d'accord? J'ai tout à fait espoir que vous soyez capable. Le but c'est d'être prêt au mois de novembre. Donc normalement ça va, vous allez être prêt sur ce truc-là. Donc, prédire le signe du travail d'une transformation thermodynamique, on va tenter aussi sur l'isocore. Alors, l'isocore, j'ai pas précisé d'où on part et où on va. Ce sera à vous de choisir votre point de départ, votre point d'arrivée. Alors, juste, quand on part d'une pression haute et on va vers une pression basse, en gardant le volume constant, en général, ça fait refroidir le système. Donc, la première type de transformation, c'est ce qu'on va appeler un refroidissement isocore. Et puis, le deuxième type, là, qui est plus dessiné sur la partie droite, on va appeler ça un chauffage. Alors, pourquoi on appelle ça un chauffage? Parce que augmenter la pression à volume constant, ça fait aussi augmenter la température. Donc, on peut appeler ça un chauffage isocore. Quoi qu'il arrive, quel est le signe de l'intégrale? Ou alors, quelle est la valeur de l'air sous la courbe que je vous ai dessinée? Mais comment l'air sous la courbe que j'ai dessinée? Est-ce que vous la voyez? Nul, ouais, c'est ça. En fait, sous ce point-là, même sous l'ensemble des points, je vois que je ne peux pas dessiner de forme géométrique dont je vais dessiner, dont je vais calculer l'air. L'air sous une courbe qui est une verticale, il n'y a pas d'air du tout. Donc on est sur une aire nue, une surface nue, et si on est sur une surface nulle, on est sur un travail nu. Et ça, c'est le principe qui nous a jusqu'ici mené là, pendant ces dernières semaines. On a un travail nul. Et on sait que ça existe, des transformations qui ont un travail nul, parce qu'on en a utilisé plusieurs. Donc nous, ce qui est très important, c'est qu'il va falloir associer le terme isocore. Donc isocore, c'est volume constant, à l'information travail nul. Voilà. Par contre, toutes les autres transformations vont avoir un travail qui a une certaine valeur. Et comment je calculerai ce travail? Je vais faire moins l'intégrale de PDV. Alors, comme je sais que c'est un peu fastidieux de calculer une intégrale, en fait, on va passer en revue, alors pas toutes les transformations, mais presque toutes les transformations, on va faire isocore, isobar et monobar, et voir comment on fait le calcul du travail, donc le calcul de l'intégrale, et puis essayer d'exploiter cette information pour pouvoir aller plus vite dans nos raisonnements thermodynamiques suivants, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, parce que vous allez continuer ce truc-là l'année prochaine. Donc voilà, on regarde, quand sur le dessin, je vois la courbe, et en fonction de l'air sous la courbe et du sens de déplacement, donc la borne inférieure est-elle plus grande ou plus petite que la borne supérieure, vous avez différents signes possibles, positifs, négatifs ou nuls, comme présenté sur cette diapo numéro 7. Alors, on va tous les détailler. On va faire déjà le isocore. Donc ça, j'ai fait des copier-coller de votre cours pour cette partie-là, parce qu'en fait, c'est des démonstrations très classiques qu'il va falloir savoir refaire. Mais du coup, maintenant, on a des billes, par exemple, on sait calculer le travail. Donc, transformation isocore, nous avons déjà vu et nous avons déjà employé cette méthode. Nous savons désormais que le travail, c'est moins l'intégrale du volume initial vers le volume final de la pression, quand j'intègre par rapport au volume. On vient de voir pour une raison graphique que ça fait 0. Bon, ça peut être aussi une propriété de votre cours sur les intégrales dont peut-être vous vous rappelez, c'est-à-dire intégrale de a à a égale de n'importe quelle fonction est égale à 0. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, quand vous allez prendre une primitive, hein, par exemple de p, ça veut rien dire physiquement une primitive de p, mais bon, c'est pour expliciter. Eh bien, pour calculer l'intégrale, vous allez prendre cette primitive avec la valeur de la borne supérieure et vous allez enlever cette primitive avec la valeur de la borne inférieure. Mais si les deux bornes sont coïncidentes, je ne sais pas, a égale b, eh bien du coup, vos deux primitives que vous prenez et que vous soustrayez, bah, ça, c'est les mêmes, donc la différence fait 0. Donc ça, c'est une propriété de votre cours de maths que vous avez pu oublier, mais vous avez vu, graphiquement, ça se retrouve assez bien. Si l'air sous la courbe est nul, ça veut dire que l'intégrale est nulle. Pof, fini. Un autre truc qui reste vrai, en fait, toutes mes démonstrations, là, mes trois diapos qui viennent, elles vont avoir comme point commun qu'elles vont toutes commencer par ce que je suis en train d'encadrer, parce que ça, c'est toujours vrai, quelle que soit la transformation. On a toujours le travail qui est moins l'intégrale de PDV, juste dans un cas isochore, ça fait 0, et on a toujours la variation d'énergie interne, c'est CV delta T. Alors pourquoi? Parce que je m'intéresse direct au gaz, parce que pour les solides et les liquides, vous savez déjà faire, hein. Donc je rajouterai quand même, ou, donc ça c'est pour les gaz, mais si j'avais un solide ou un liquide, c'est delta U égale M, C, delta T. Ça, vous maîtrisez depuis l'année dernière, donc j'ai pas pris le soin de le reprendre, et puis du coup, en plus, c'est pas une nouveauté, quoi. C'est pareil qu'avant. Donc, ce que j'ai encadré reste toujours vrai si j'ai un gaz, et puis si c'est pas un gaz, ben, bien sûr, vous savez que le CV, il faut le remplacer par M fois C, avec C qui est une grandeur tabulée. On relie ces deux informations grâce au premier principe. C'est un principe, c'est qu'il faut partir de ça. Delta U égale W plus Q, et puis, par exemple, on s'en sert pour trouver le transfert thermique nécessaire, Q égale CV delta T. Je vous rappelle que ça, c'est le genre de raisonnement qu'on a fait plusieurs fois. Par exemple, le chauffage d'un four, d'accord, le chauffage de mon four électrique, j'avais besoin de faire passer la température de 20 degrés à 180 degrés. En connaissant la valeur de CV, bah, je pouvais obtenir la variation d'énergie interne. Comme le travail était nul parce que ma transformation était isochore, ça correspondait directement au transfert thermique nécessaire. Et le transfert thermique nécessaire, c'était une grandeur intéressante parce que c'était combien de joules je dois apporter à mon système. Donc en termes d'utilisation, c'était aussi combien de secondes je dois utiliser ma résistance électrique de 3600 watts, si je me rappelle des valeurs. Donc on voit que connaître la valeur de Q, alors qu'il n'y a pas de formule pour Q, hein, il n'y a que Q égale 0 dans le cas adiabatique qui me donne directement la valeur de Q. Connaître Q, c'est aussi connaître la durée d'utilisation, connaître les conditions d'utilisation, les conditions de la transformation. Donc ça sera un peu notre but. Alors, on n'aura pas qu'un seul but, mais un de nos buts d'études de transformation thermodynamique, en plus de prévoir les valeurs finales, etc., ça sera certainement de trouver Q, le transfert thermique nécessaire pour faire telle ou telle transformation. Bon, là, c'était l'occasion de mettre en place notre structure et on va essayer de transposer ça à d'autres transformations. Alors, on fait un truc plus dur, on fait transformation isobare. Alors, isobare, qu'est-ce qu'ils me disent que ça veut dire? Qu'est-ce qui est constant dans isobare? Ouais, vas-y, Mickaël.
La pression qui est constante.
Ouais, la pression ou la pression extérieure? Ah, raté. Ouais, c'est la pression intérieure. Si c'était la pression extérieure constante, on appellerait ça monobare et c'est la diapo d'après. D'accord? Alors, je vous l'écris, pression intérieure constante. Donc ça, c'est pas évident hein, d'avoir un système qui garde toujours la même pression. En général, on a des soupapes, c'est-à-dire on a un échappement. Et donc du coup, il faut bien définir son système, parce que qui dit échappement ou admission dit entrée ou sortie de gaz. Donc ça veut dire que je vais peut-être pas pouvoir définir mon système fermé, entre guillemets fermé, hein, c'est-à-dire qu'il n'augmente pas son nombre de moles, en prenant le contenu de mon système. Réfléchissons à un système tout simple, une cocotte minute, voilà, donc un récipient, en gros une casserole avec un bouchon hermétique. Il y a un moment, le système de soupape va être enclenché, c'est-à-dire qu'on va avoir de la matière qui était dans ma cocotte minute et qui sort à l'extérieur. Ben, si je veux pouvoir mener un bilan thermodynamique correct avec le premier principe, il va falloir que je considère le système qui reste tout au long. Donc par exemple, peut-être que je vais prendre, je sais pas, sur 10 moles que contenait ma cocotte minute, je vais peut-être prendre que 9 moles de système, parce que ça sera les 9 moles qui étaient là au début et qui sont restés là tout le temps, et alors qu'il y a une mole entière qui a transité par ma soupape et qui est sortie de mon système. Donc ça va complexifier souvent, d'avoir une transformation isobare, la définition de mon système. Voilà. Sinon, en fait, une transformation isobare, ça peut aussi être une transformation tellement lente que la pression intérieure et la pression extérieure s'équilibrent tout le temps. D'accord, ça, si ça va tellement lentement, bah, je vais toujours avoir la possibilité que ces deux pressions s'égalent. Et donc, du coup, j'aurai une transformation isobare de manière réaliste. D'accord ? Donc, voilà. Mais c'est la pression intérieure qui est constante. Bah, ça tombe super bien, parce que, rappelez-vous, donc à nouveau, je vais le réencadrer, comme ça on aura vraiment un truc qui est redondant dans nos différentes explications. Le travail, c'est moins l'intégrale de P. Mais P est une fonction constante. Donc habituellement, quand je calcule l'intégrale d'une fonction constante, alors ça, je ne sais pas si je vais pouvoir l'écrire ou le dessiner, si je vais le dessiner avec un crayon. Ce que je fais quand j'intègre une fonction constante, bah, les constantes, pof, je les sors de l'intégrale pour les mettre devant le symbole d'intégrale. Donc j'aurai moins P intégrale de 1 dv, donc du coup intégrale de 1, je n'intègre pas par rapport à x, donc c'est pour ça que ça vous change un petit peu, j'intègre par rapport à v, bah, une primitive de 1, ça fera v. Donc si vous voulez, alors ça je ne peux pas vous l'écrire, je suis désolée, ça me fera moins, parce que le moins était là, P c'est la valeur de la constante que je viens de sortir de l'intégrale, et puis intégrale de 1 dv, ben, ça fera v à prendre entre ces valeurs, volume final et volume initial. Donc du coup, ce qu'il y a de bien dans isobar, finalement, c'est que notre travail s'exprime assez simplement. Alors autre chose, pourquoi est-ce que, alors une autre manière de l'écrire, c'est aussi de dire que ça fait, alors au signe près, hein, donc je vais mettre moins p fois volume final, moins, non, c'est très bien ce qu'il y avait là, excusez-moi. Une autre manière de voir ça, c'est peut-être revenir au dessin. D'accord ? Je vois que c'est pression fois variation de volume. Bah, si vous vous rappelez que l'intégrale, c'est au signe près la surface, bah, la surface de quoi ? La surface de ce rectangle que je dessine. Et un rectangle, c'est quoi sa surface ? Bah, c'est côté fois côté. Alors, il y a un côté qui mesure P, voilà. Et il y a un autre côté qui mesure V. Alors ici dans mon cas, VI moins VF. Donc du coup, c'est assez logique que dans le résultat de mon intégrale, j'ai la multiplication de P par VF moins VI et que j'ai juste à veiller au signe qui est devant ça pour m'assurer que le travail est bien positif dans le cas d'une compression ou bien négatif dans le cas d'une détente. Donc ça peut être une manière de faire pour ceux qui sont un peu allergiques à l'intégrale, j'en ai tous les ans, c'est-à-dire des gens, voilà, intégrale, c'est pas un truc qui est bien passé. Bah, si vous rappelez que intégrale, c'est pareil que R sous la courbe, vous allez voir les courbes qu'on a analysées, elles sont pas si dures que ça, donc vous dessinez la figure géométrique sous la courbe et vous essayez de calculer la surface de ce truc-là. Bon, on va être un peu coincé pour l'isotherme, mais on verra ça plus tard. Donc, j'obtiens une expression pour le travail qui est un petit peu différente de l'isocore, mais bon, c'est normal, c'est pas la même transformation. Par contre, un truc qui reste vrai, donc je vous ai dit, je vous encadre ce qui reste toujours vrai comme point de repère. Delta U reste égal à CV fois la variation de température, on l'a appris l'année dernière, on a juste renommé le coefficient qui était devant delta T, on l'a appelé CV pour les gaz, c'est tout. Et ce qui reste encore vrai, et qui restera vrai tout le temps, delta U égale W plus Q. Donc du coup, bah, je peux faire un peu pareil que tout à l'heure, essayer de me dire, bah, peut-être que j'ai besoin de savoir combien de temps je dois allumer mon chauffage pour cette transformation. Eh bien, je vois que Q sera une donnée, on va dire, transitoire pour le calcul de la durée de chauffage. Et Q, comment je vais l'avoir? Ben, je vais l'avoir par différence. Je vais faire delta U moins W. Donc delta U moins W, ça fait CV delta T moins moins, c'est-à-dire plus PVF moins VI. J'ai fait une petite remarque ici qui n'est pas innocente, c'est de dire que bon ben CV delta T, c'est aussi l'énergie interne finale moins l'énergie interne initiale. Donc je le fais juste remarquer qu'on va obtenir une expression de Q qui est hyper compliquée, où il y aura en fait quatre termes. Un terme d'énergie interne finale, avec auquel on retranchera l'énergie interne initiale, et un terme de P fois V dans l'état final et dans l'état initial, et ça c'est une grandeur qu'on va devoir inventer. Abou, je t'écoute.
Abou, je t'écoute.
Ouais, je sais pas, t'avais une question, non?
Non, madame.
Non, t'avais juste envie de... Voilà, ok, pas de soucis.
Arrête de faire des blagues, vas-y.
Ah, il fait des blagues, ok. Saïdou, t'as une question pour de vrai, toi? Doucement, doucement, ça marche. C'est déjà un chapitre difficile, c'est en plus vous éparpiller, enfin voilà. Donc c'était juste l'occasion de dire, de vous montrer que finalement, on aura toujours la même démarche. Delta U fait toujours CV delta T, delta U c'est toujours W plus Q, W c'est toujours moins l'intégrale de PDV, mais juste cette intégrale, des fois elle vaut 0, des fois elle vaut autre chose, et il suffira de savoir la calculer. Et par différence, on obtiendra Q. Voilà notre méthodologie. Je vous épargne le cas suivant, donc la diapo suivante, la diapo 10, c'est la même chose, sauf qu'en fait, il n'y a que la pression extérieure qui est constante dans le cas d'une transformation monobar. Mais ce n'est pas grave, on a une autre formule pour le travail qui contient la pression extérieure, et donc je peux lui faire la même chose que ce que j'avais fait à la pression intérieure dans un cas isobar, c'est-à-dire la sortir de l'intégrale et puis exprimer le travail comme ça. Alors, j'ai une petite subtilité, mais je vous la laisserai lire, c'est de se dire qu'en fait... au début et à la fin, le système est immobile. Et pour avoir un équilibre mécanique, rappelez-vous votre piston. Hein. Franchement, s'il y a un truc qui est compliqué, prenez un système simple. Ma seringue, mon piston, mon gaz qui est enfermé dans ma seringue. Eh bien, si je veux que le piston soit immobile, il faut qu'il y ait autant de force qui appuie par la droite que de force qui appuie par la gauche. Et donc, pour que ça ce soit possible... Eh bien, il faut que la pression intérieure de mon système, donc la pression liée au contenu de ma seringue, soit exactement la même que la pression extérieure. Donc même si ce n'est pas vrai tout au long de la transformation, au moins au démarrage et à la fin, où vraiment bah, c'est des cas d'équilibre mécanique, hein, la pression extérieure sera égale à la pression initiale et la pression finale. Et donc pour cela, on peut être capable de changer la pression extérieure en P finale ou P initiale si ça m'arrange. Voilà. Et donc, du coup, j'arrive à réécrire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que Q, bah, c'est CV delta T plus la pression finale fois le volume final moins la pression initiale fois le volume initial. Donc, en gros, c'est un truc qui ressemble à l'autre cas de figure, mais je ne m'en rappellerai jamais, quoi. Moi, je me rends compte que c'est trop compliqué. Je ne vais pas me retenir cette somme, qui n'est même pas une somme, c'est des différences et des sommes, de quatre termes, il y a des termes finaux, des termes initiaux, enfin bref, je suis absolument sûre que je ne retiendrai pas ça. C'est donc pour ça que des grands savants, les grands inventeurs de la thermodynamique, les Carnot, les Clausius et autres, ont inventé, et donc ça c'est quand même puissant, hein, se dire mathématiquement j'ai des choses qui m'embêtent, donc du coup je vais inventer une grandeur que je ne peux même pas mesurer, je vais juste l'inventer de manière théorique parce que ça va m'aider dans mes raisonnements. Ils ont inventé une grandeur thermodynamique, c'est quand même fort. Alors ce ne sera pas la seule grandeur qu'ils inventent, on en verra peut-être une autre genre le dernier jour de cours, sinon vous la verrez l'année prochaine. Et donc cette grandeur qu'ils ont inventée, ça s'appelle l'enthalpie. Donc, c'est une grandeur inventée spécialement pour le cas des transformations isobar ou monobar. En effet, comme ils avaient vu que Q, c'était finalement la différence de deux termes, un terme final moins un terme initial, et que chacun de ces termes s'écrivait U plus PV, bah, ils ont dit U plus PV, en plus c'est dans la même unité, c'est tous les deux des joules. Ce qui n'est pas étonnant, enfin, ce qui est un peu bizarre à comprendre d'ailleurs pour PV, pourquoi PV c'est des joules, il faut regarder dans PV égale NRT, vous analysez toutes les unités, vous allez voir que c'est des joules. Donc, hop, U c'est des joules, PV c'est des joules, Et donc, ils ont inventé une grandeur en joules, qu'ils ont appelée H. Alors, pourquoi H? Parce que F et G étaient déjà utilisés, hein, tout simplement. Ils ont appelé ça H, et ils ont appelé ça enthalpie. D'accord? Vraiment enthalpie. Donc ça, là, je la note, parce que je ne pouvais pas l'écrire dans un vrai cours, mais ce qu'il faut comprendre, que c'est une grandeur inventée. D'accord? C'est quelque chose qui n'existe pas, l'enthalpie. C'est une grandeur qu'on invente pour faciliter nos bilans thermiques. Mais si elle est inventée, du coup, elle a moins de réalité physique pour nous. L'énergie interne, on s'en fait une représentation. L'enthalpie, on ne peut pas s'en faire une représentation. Parce que l'enthalpie d'un système, c'est son énergie interne plus un truc qui dépend de sa pression et de son volume. Donc du coup, on est passé dans un domaine tellement conceptuel. Alors déjà, c'était théorique la thermo, hein, qu'on arrive à inventer des grandeurs parce qu'elles nous facilitent le calcul. Justement, Jules, je voulais dire que nous allons voir très très bientôt, je vous dis peut-être dernière séance, peut-être l'autre avant, j'en sais rien, une autre grandeur inventée qui s'appelle l'entropie. Le symbole sera S, qui sert à mesurer des choses totalement différentes. Alors si vous voulez, l'enthalpie, ça sert en gros à mesurer l'énergie un peu améliorée, alors que l'entropie, ça sert à mesurer le niveau de désordre de mon système. Donc ça sera complémentaire, mais à ne pas mélanger. Donc ça peut être aussi un choix que je vais faire si je vois qu'on est un peu à la bourre. Je ne pourrais ne pas voir du tout l'entropie cette année, comme ça vous aurez largement le temps de digérer la grandeur enthalpie, bien la maîtriser, et comme ça ne pas la confondre avec l'autre qui s'appelle presque pareil, qui s'appelle entropie. Donc l'enthalpie, c'est pour aujourd'hui. Bon, je vous ai fait les présentations, enthalpie et TSI2, voilà. Donc c'est une grandeur en joules. Alors elle est extensive. Alors ça veut dire quoi extensive? Ça veut dire qu'elle dépend de la taille du système. Donc si j'ai un système avec 10 moles, eh bien ça fera une enthalpie 10 fois plus grande que dans un système avec 1 mole. Voilà ce que ça veut dire. C'est comme l'énergie interne, hein, ça marche pareil. Et puis, à quoi ça sert? Bah, ça ne sert que dans deux cas de figure, les transformations isobares ou les transformations monobares. En gros, ça sert à regrouper tous les termes que j'avais trouvés dans le transfert thermique et dire que c'est la variation de l'enthalpie qui correspond à Q. Donc ça, on va l'utiliser, hein, ça sera l'objet de notre dernier exemple sur ce chapitre. Alors bien sûr, je pense que vous allez devoir le retravailler un peu tout seul avec le corrigé, mais c'est l'objet de notre dernier exemple. Alors juste, il va nous manquer une info. C'est moi, je suis OK pour parler de cette enthalpie, mais comment on calcule l'enthalpie? Parce que l'énergie interne, j'ai déjà eu du mal, mais l'enthalpie, c'est encore pire. Alors, si on se dit que l'enthalpie, c'est une énergie interne améliorée, bah, il doit y avoir quand même des caractéristiques communes. Par exemple, l'énergie interne, on avait dit que c'était CV delta T. Donc, en gros, ça dépendait de la température, et puis ça dépendait aussi de CV, c'est-à-dire ça dépendait du type de gaz. C'était monoatomique, diatomique ou polyatomique. Eh bien, je pense foncièrement que comme c'est deux grandeurs qui se ressemblent, H aura un comportement qui ressemble beaucoup. Et donc, je vais vous montrer comment on calcule H. Alors, calcul H ou delta H. Alors, delta H, c'est plus ma cible, hein, c'est la variation d'enthalpie. Donc, delta H, bah, ça va être exactement comme delta U. Ça va être delta T fois une capacité thermique, juste. Ça va être l'autre capacité thermique, CP, celle dont je vous avais dit, elle ne sert à rien dans l'énergie interne. Ben en effet, elle ne sert à rien dans l'énergie interne. CP, elle sert dans l'enthalpie. Et il se trouve que j'ai fait tellement bien mon travail la semaine dernière que vous connaissez déjà les CP pour les gaz qui sont à connaître. Alors, vous ne les connaissez pas parfaitement, mais vous savez qu'ils sont reliés à CV. En effet, on a appris, sans la démontrer, mais on va la démontrer aujourd'hui, qu'à chaque fois, pour un gaz parfait, il y avait deux capacités thermiques. Il y en avait une qui s'appelait CV, qui était géniale, hein, qui nous servait à avoir l'énergie interne, et l'autre qui s'appelait CP, on ne savait pas à quoi ça servait. Bon, ben maintenant, on voit un peu à quoi ça sert, et que toutes les deux étaient reliées par, il y en a une qui est, leur différence vaut NR. Donc maintenant, ben, vous allez me dire pour les différents gaz parfaits, alors je vais déjà faire mon petit sondage. Pour un gaz parfait monoatomique, que vaut CV? CV, le normal, celui que vous devez savoir. Monoatomique CV. Alors, qui c'est qui se lance? Ouais, Mickaël, dis-moi.
3,5 de NRT.
Presque. 3,5 de NR. Parce que je te rappelle, si tu multiplies par T, ça fait des joules. C'est-à-dire, c'est pas une capacité thermique. La capacité thermique, ça doit être en joules Kelvin moins 1. 3,5 de NRT, c'était l'énergie interne. Et pour avoir le CV, il faut dériver par rapport à la température. Donc, on vire le T. Très bien. Tant que je te tiens, Mikhaïl, est-ce que tu pourrais me proposer, du coup, un CP pour ce monoatomique, grâce à la relation de Maillard? CP, ça ferait quoi? Il faut rajouter NR à ce que tu viens de me dire.
Bah donc, c'est 5,5 de NR.
Ouais, c'est ça. Donc, 3,5 de NR plus NR. Alors, il faut poser un peu comme il faut ça. Hein, ça va nous fera 5,5 de NR. Très bien. Donc, vous voyez, vous connaissez déjà le CP du monoatomique. Un peu par accident, c'est parce que j'étais obligée de vous parler de CP pour avoir CV dans le cas polyatomique. Donc, c'était par accident. On se fait encore un point sur le diatomique. Alors, je sais pas, quelqu'un d'autre qui me propose le CV du diatomique? Dylan, dis-moi.
Le CV, c'est 5,5 de NR.
Ouais, ça va, super. Alors, du coup, est-ce que tu vas pouvoir me proposer le CP?
7,5.
Parfait, parfait, 7,5 de NR. Donc, vous voyez, il vous a suffi de connaître le CV du monoatomique ou du diatomique. Et si encore vous ne connaissiez pas le CV, vous auriez pu avoir à mémoriser juste l'énergie interne, 3,5 de NRT, 5,5 de NRT, que je dérive par rapport à la température pour avoir CV. Et pour avoir CP, pof, on ajoute NR. Alors, ça ne résout pas mon problème intégralement. Donc, je vous ai remis ça joli dans un joli tableau. Hein. C'est que pour le polyatomique, je ne connais ni CV ni CP. Par contre, la relation entre les deux reste vraie et en général, et c'est ce que je vais noter juste en dessous à la main, pour obtenir les deux, hein, CV et CP, on résout un système d'équations, de deux équations, pardon. Alors parmi ces deux équations, bah, y a celle qui est écrite là, CP égale CV plus NR, et puis il faut ajouter que gamma, c'est le rapport de CP sur CV, et gamma, c'est un truc mesurable pour chacun des gaz. Donc du coup, vous avez deux inconnus, CP et CV, deux équations, et vous faites la résolution de ce système à deux équations. Comme ça, vous avez chacun des deux. Ok ? Alors, on va se le laisser pour la semaine prochaine, ce truc-là, le cas polyatomique, parce que je repousse, mais il y a un moment, il faudra bien qu'on le fasse. Hein. Et surtout, ça sera davantage intéressant, enfin un truc d'intérêt dans les machines thermiques qu'on commencera d'aborder la semaine prochaine. Juste un petit aparté, ce que j'ai mis en dessous de mon tableau, vous pouvez aussi dire que vous n'en avez rien à foutre, hein. C'est pourquoi CP égale CV plus NR, ben, c'est dû au fait que H c'est U plus un morceau. Alors c'est U plus quoi? C'est U plus PV, et dans le cas d'un gaz parfait, et c'est là où on voit que ça n'intéresse que pour le gaz parfait et pas pour d'autres choses, PV on peut le remplacer par NRT. Et puis après, ben c'est là où, voilà, j'ai pas vraiment bien défini dans mon diaporama, alors que c'est peut-être mieux fait dans le cours écrit que je vous ai envoyé. CP, on peut voir ça un peu comme CV, comme la dérivée par rapport à la température de la grandeur thermodynamique inventée H. Mais si je dérive H par rapport à la température, je dérive U plus NRT. Ben, la dérivée de U, je reconnais que c'est CV, et puis la dérivée de NRT, ça fait NR. Donc on tombe sur CP égale CV plus NR. Démonstration à ne pas connaître, hein, ça ne sert à rien, mais par contre, ça permet de se convaincre vraiment de ce que c'est que les deux capacités thermiques. Pourquoi il y en a deux? Parce qu'il y en a une, c'est la dérivée de U, et l'autre, c'est la dérivée de H, H étant l'énergie interne améliorée, qui ne sert que dans les transformations monobar ou isobar. Mais voilà, en termes de fréquence, c'est quand même au moins 60-70% des transformations qui sont comme ça, donc ça nous permet de gagner en rapidité, de connaître H, puisque dans H, finalement, on va camoufler ça, on va éviter le calcul du travail, et le calcul du travail, c'est quand même un calcul d'intégrale. Donc, ok, on augmente en complexité en inventant une grandeur, mais on augmente aussi en rapidité, parce qu'on n'a plus à calculer une intégrale, qui n'était pas forcément facile soit à calculer, soit à penser, pour finalement obtenir notre résultat. Alors, on va finir sur le bilan, c'est-à-dire, on fait quoi avec ça? Parce que là, vous m'en avez craché pendant 1h30, je comprends rien du tout. Je me rappelle juste la fin, là, ce qui est marqué dans le tableau, ça je le sais, je suis contente, j'ai appris mes formules. Comment on va faire et comment on va mener ces raisonnements? Donc, rappelez-vous, votre point de départ, c'était que vous savez déjà, parce qu'on en a fait plusieurs fois, très bien faire les transformations où le travail est nul. Bah, il suffira de modifier un petit peu ça, si le travail n'est pas nul, en particulier dans une transformation isobare ou monobare, il suffira de ne pas prendre delta U, mais de prendre delta H. Alors, ce que je vous propose comme exercice, c'est l'exercice qui est au tout début du document de cours que je vous ai envoyé tout à l'heure, et puis bien sûr, ça sera votre travail un peu important. Alors, peut-être pas pour demain, j'en sais rien. Vu que j'ai dû annuler la classe virtuelle de demain matin, j'ai pas encore réfléchi à ce que j'allais vous faire faire. Je vous envoie ça dans la foulée. Là, d'ici une heure, vous saurez ce qui vous est demandé pour demain. On va essayer de traiter ensemble une transformation isobare. Sur le site, je vous ai mis le corrigé, bien tapé, bien détaillé, avec au moins deux versions. Mais comme d'habitude, des fois, vous savez, le raisonnement qu'on fait au brouillon, moi, c'est-à-dire quand je griffonne sur mon énoncé, je vous mets des trucs en rouge, en encadre, etc. Le raisonnement préparatoire qu'on fait au brouillon, des fois, il est tout aussi pertinent que la rédaction jolie qu'on aura à la fin. Et parfois, même, vous hésitez sur une copie à ne laisser, alors je ne dis pas que votre brouillon, mais à proposer une version non aboutie de ce que vous avez fait, parce que, par exemple, il vous manquait la dernière étape. Il ne faut pas hésiter, parce que ça fait partie du cheminement scientifique, du tâtonnement. Avoir réussi déjà à dégrossir les différentes parties, tant pis si je n'ai pas réussi à le synthétiser, c'est déjà avoir fait les trois quarts du travail, et donc il ne faut pas hésiter à les proposer dans vos copies, même si ça ne vous semble pas abouti. On a même des gens un petit peu perfectionnistes, alors pas forcément beaucoup parmi vous, mais peut-être plus parmi vos prédécesseurs sur des années entières, où j'avais rien décrit parce que vous n'aviez pas trouvé le résultat final. C'est peut-être une déformation de bac pro, alors pour beaucoup, vous avez bien dépassé ce truc-là, mais il ne faudrait pas vous dire « j'ai pas le résultat, donc j'ai faux ». Non, d'accord, nous, ce qu'on attend, c'est la démarche, et si vous savez faire les trois quarts de la démarche, je suis contente. Donc, ces gribouillages d'énoncés, ces questionnements que vous vous posez au brouillon, c'est tout aussi important que la réponse jolie et enveloppée que vous allez proposer sur votre copie. Donc nous, on va essayer de débrouiller au brouillon, et puis après, soit je vous projetterai si on a le temps, soit vous vous concentrerez sur la rédaction que je vous propose dans le document, et puis après, on verra. Alors, qu'est-ce que j'étudie? Donc, je vais prendre une enceinte cylindrique de section 10 cm². Bon, une bouteille, quoi. Une bouteille sans goulot. Avec 3 mol d'hélium. Alors, l'hélium, on vous propose comme caractéristique que c'est un gaz parfait monoatomique. Bon, monoatomique, brainstorming, moi, je vais mettre, tant que j'y suis, parce que j'ai peur de les oublier, toutes les formules qui vont avec. C'est-à-dire, CV égale 3,5 de NR, et puis CP égale 5,5 de NR. Voilà. Pardon, j'ai oublié le N. Comme ça, tant que j'y suis, je le marque. C'est peut-être pas utile, mais au moins, j'aurai ça sous les yeux. Donc, initialement, sous une pression de 1013 hectopascal, oh oui, je me rappelle, hecto, c'est une conversion qui est difficile. Alors, hectopascal, c'est combien de pascal? S'il y en a qui viennent d'une région viticole, c'est comme hectolitre, c'est combien de litres? Est-ce que ça, vous avez ça comme idée? Hecto, c'est 10 puissance. Ah, Abou, t'as failli prendre la parole, hein. Région viticole, je t'écoute.
Ouais, c'était 2.
Ouais, c'est ça. 10 puissance 2. C'est ça, 10 puissance 2. D'accord? Donc 1013 hectopascal, 1013 10 puissance 2 pascal. Vous voyez, je fais de la lecture, mais je fais de la lecture attentive parce que je sais, par exemple, que c'est une difficulté que j'ai tout le temps. Donc je ne suis même pas allée au bout des questions, mais je traduis, d'accord, petit à petit. Température de 300 Kelvin. Kelvin, ça me va, c'est une unité du système international. Petit a, calculer les capacités thermiques CP et CV du gaz. Bon, j'ai bien fait de faire mon annotation monoatomique CV, CP égale. Alors, il y a juste un souci. R, on me le donne, 3,5, 5,5, je sais combien ça vaut, mais N, comment on trouve N? N, il est donné. Oh, bah cool, 3 mol, gagné. Bon, je fais mon application numérique, je sais combien valent CP et CV. Vous voyez, j'avais juste fait une lecture diagonale de mon énoncé, annoté au fur et à mesure les difficultés que je rencontrais habituellement. Là, il n'y en a pas vraiment, parce que j'ai même pas eu besoin de faire de conversion, de choses comme ça. Hop, j'ai directement la réponse à la question A. Je ne sais plus combien ça fait, puis je m'en fous un peu maintenant. Maintenant, je passe à la partie plus difficile, aux détails non pas de mon système, mais de ce que je vais lui faire. Alors, l'enceinte est fermée. Donc, fermée, système fermé. Par un piston mobile de masse négligeable. Alors, l'histoire de la masse du piston, c'est juste pour dire qu'en fait, tous les mouvements qu'on va communiquer au piston, en termes d'énergie, ça va être transféré au système. C'est pour dire qu'il n'y a pas de perte. en particulier. Donc ça, c'est une hypothèse que vous reverrez, puis que vous détaillerez plus tard. Là, aujourd'hui, c'est trop théorique pour nous aujourd'hui, mais de masse négligeable. Et, alors on a une bouteille, hein, une bouteille avec un bouchon, si vous voulez, qui peut bouger verticalement, hein. Et j'ai envie, donc je plonge à l'intérieur ce qu'on appelle un thermoplongeur. Un thermoplongeur, c'est une résistance qui va pouvoir aller dans l'eau, dans l'huile, tiens, c'est les résistances de friteuse aussi, les thermoplongeurs, ou ici, dans l'air. Et donc je mets ma grosse résistance, donc je vous dis 100 ohms, avec un courant de 100 mA à l'intérieur, pendant une heure. On considère que le piston est suffisamment libre pour que la pression reste constante au cours de la transformation, et certainement constante et égale à la pression extérieure. C'est ça, cette histoire de piston libre. Alors, première question, qui est une question qui aurait pu être posée il y a 15 jours, à laquelle vous saviez répondre déjà il y a 15 jours, déterminer la valeur du transfert thermique reçu Q. Alors, je vous rappelle, on est dans un système de chauffage. Comment je calcule le nombre de joules envoyé au gaz grâce au système de chauffage? Alors, qui c'est qui se lance? Il faudrait quoi? C'est la formule que j'ai même rappelée en début de ce cours aujourd'hui. J'ai pas tout sous les yeux, mais je vois que la durée a l'air d'être importante. Si je fais 2 heures, je vois que le nombre de joules, il va être 2 fois plus grand. Donc c'est la durée fois quoi? Alors, je regarde les unités. Ce que je veux, c'est des joules. Je vais faire une durée. Et il faudrait que je multiplie par quoi? Par une? Peut-être par un truc en watts? Peut-être par une puissance? Ouais. Donc, du coup, je reprends ce que j'ai déjà fait plusieurs fois. Le transfert thermique, c'est la puissance de mon système de chauffage fois ma durée. Alors, ma puissance, mince, il n'y a pas le nombre de watts. Mais il y a quand même la valeur de la résistance et la valeur de l'intensité. Alors, qui est-ce qui se rappelle en élec, quelle est la puissance dissipée par une résistance? Donc, la puissance, c'est toujours U fois I, mais là, j'ai pas U. Alors, ouais, Mickaël, ça fera quoi?
RI carré.
Ouais, RI carré. Donc, c'est U fois I, mais comme U égale RI, ça nous fera du RI carré, et puis multiplié par la durée. Alors, je suis presque bon, là. Il faudra juste que je fasse attention. R est en ohm, c'est bon. I est en milliampères, donc il faudra le mettre en ampères. Et puis surtout, ma durée, ils me l'ont mis en heures, et ça, c'est pas bien. D'accord? Il faudra mettre dans la vraie unité du système international, c'est-à-dire la seconde, donc 3600 secondes. Je fais ça tranquillou, et j'aurai le transfert thermique. Alors, je vous donne pour indication la valeur, parce qu'il faut que vous représentiez, d'accord? Si à chaque fois que vous esquivez les questions d'application numérique, vous n'allez jamais retenir, on va dire, les ordres de grandeur cohérents. Donc, ça fait combien de joules? Une résistance type, alors c'est pas une résistance de friteuse, là, 100 ohms, c'est un petit peu plus petit, en termes de résistance au courant. Ça fait combien de joules? Alors, je regarde ça, pour pas vous dire de conneries. Alors, exemple 3, ça vient. Donc, ça me fait un transfert thermique de 3600 joules. Ah oui, parce que I carré R se simplifie. Donc ça va me faire 3600 joules. Voilà, un petit peu pour avoir des ordres de grandeur en tête, même si ça, c'est pas un truc très habituel. Maintenant, comment je fais? Eh bien, j'ai d'une part CV et CP, j'ai d'autre part Q, et on me demande un truc, on me demande de trouver la température finale du gaz. Alors déjà, la température finale, elle va être cachée dans quelle grandeur? Ben... Ouais, dis-moi, Mickaël.
Delta T.
Alors, c'est delta T, et delta T, tu vas le trouver dans quelle autre grandeur? C'est quoi qui est égal à delta T fois quelque chose? Delta...
Bah, c'est la variation de l'énergie.
Ouais, delta U. Donc, par exemple, soit tu vas utiliser que delta U, c'est CV delta T, et du coup, comme ça, tu auras... Oh, pardon, j'ai fait une connerie. Voilà. Du coup, comme ça, on va trouver une température finale. Bon, alors, j'ai juste un souci. Delta U, c'est aussi W plus Q. Donc, il va falloir, on a Q, il va falloir qu'on spoltine le calcul de W. Donc, avec W est égal à moins une intégrale. Bon, ben, c'est bon, hein, on n'a pas peur, on est en deuxième année de prépa, calculer une intégrale, surtout que ça sera une intégrale de la pression, et la pression, c'est une grandeur constante, donc a priori, calculer l'intégrale d'une constante, ça ne nous fait pas si peur que ça. Une deuxième version sera de se dire que la température finale, c'est presque ma préférée parce qu'elle est plus directe, la température finale, elle sera aussi calchée dans delta H, puisque vous savez maintenant notre nouvelle grandeur, delta H, c'est l'autre capacité thermique fois delta T. Donc, là-dedans, il y aura la température finale. Et ce qu'il y a de bien, c'est que je suis dans le cas particulier où delta H a un intérêt, je suis dans le cas isobare. Delta H n'a de l'intérêt que dans le cas isobare ou monobare, et delta H vaut directement Q. Donc du coup, bah là, je me dis, bingo, jackpot, Q, je l'ai. Si j'utilise delta H, je n'ai pas besoin de calculer le travail. Pourquoi ? Bah parce qu'en fait, delta H, je vous ai dit, c'est une énergie interne améliorée. C'est une énergie interne qui a déjà englobé le calcul du travail. Donc du coup, bah, voilà, le travail, il n'est plus à calculer. Et je vois que ça me fait deux méthodes différentes. Alors il y en a une, il y a un peu plus de boulot. L'autre, il y a un peu plus de boulot de mémorisation, là, le delta H. Mais j'ai deux techniques différentes pour obtenir mon résultat, qui est la température finale. Et donc, ben, je me laisse enfin, au début, vous allez voir que vous allez préférer la première, parce que vous allez dire, bon, ben, j'ai compris delta U, je reste sur delta U. Très bien. Mais au fur et à mesure, vous allez vous dire, c'est chier, quoi. Calculer le travail, calculer à chaque fois l'intégrale, la plupart du temps, en plus, ça sera pas nul, mais ça sera l'intégrale, enfin, l'aire sous une courbe qui correspond à un rectangle. Vous allez vous dire, non, j'en ai marre, je me calcule plus l'intégrale, je vais essayer d'aller vers la technique plus directe. Et la technique plus directe, c'est ce qu'on appelle le premier principe isobare, delta H égale CP delta T égale Q. Là, j'ai toutes les briques, hein. La première question, j'ai CP, la deuxième question, j'ai Q, et on me demande de trouver TF connaissant TI. Donc vous voyez à quel point c'est direct. Par contre, la contrepartie, c'est que du coup, vous devez avoir une petite mémorisation supplémentaire sur... ben, delta H égale Q, et dans le cas monobar ou isobar. Ok ? Donc je vous ai envoyé, si je ne l'ai pas envoyé, il est sur le site ou sur mon drive, le corrigé de cet exemple-là, rédigé, avec les deux versions rédigées. Donc si vous avez un peu de temps avant lundi, je vous conseille de le regarder. Sinon, on retravaillera ça en petits groupes lundi et mardi, histoire que ce soit bien maîtrisé, que ce soit un genre de choses que voilà, en troisième année, je sais faire et il n'y a pas de problème et on passe à la suite. Bon, et ben je vous félicite parce que vous avez bien survécu à un cours aussi difficile, aussi théorique et voilà. Bon, je ne sais pas si vous êtes peut-être en train de faire la sieste, mais je vous félicite d'avoir tenu bon jusque-là. Et puis ben, je vous dis du coup pas à demain, mais on se voit en début de semaine. Je vous envoie un planning très très rapidement sur le planning de ce début de semaine pour qu'on recommence. Ok ? Allez, à bientôt, bonne journée, bonne méca à vous là pour ce qui vient dans quelques minutes et bon courage.
Au revoir madame.